Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est dans une ambiance ultra tendue que la campagne pour le scrutin anticipé du 12 décembre a commencé hier en Grande-Bretagne. Le pari électoral de Boris Johnson risque bien de tourner au référendum pour ou contre le Brexit. Une campagne éclair donc de 5 semaines, les conservateurs qui font la course en tête, mais tous les scénarios restent encore possibles dans un pays fracturé où les partis politiques sont eux aussi si profondément divisé, où les défections, les retournements se multiplient dans chaque camp. Tout le monde se demande maintenant si les Britanniques vont se déplacer pour voter. En tout cas, il y en a un qui se passionne pour ce scrutin, c'est Donald Trump, qui distribue depuis quelques jours les bons et les mauvais points. Alors Boris Johnson peut-il réussir son coup de poker? Sur quoi se joue cette campagne? À part patienter jusqu'au 31 janvier, que peut dire et faire l'Europe? Élection Boris Johnson. Peut-il perdre? C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Patrick Martin-Jeunier, vous êtes spécialiste des questions européennes et internationales. Vous enseignez à Sciences Po. Votre ouvrage « L'Europe a-t-elle un avenir ?» est publié aux éditions Studirama. Philippe Turl, vous êtes journaliste britannique, chroniqueur international à France 24. Marc Epstein, vous êtes journaliste franco-britannique, ancien grand reporter pour l'Express. Enfin, Catherine Mathieu, vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous êtes spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Philippe Turl. Elle a commencé hier, la campagne sur les chapeaux de roue.
On a l'impression déjà que la campagne, ça fait belle durée que ça a commencé, parce qu'en 24 heures, on a eu des rebondissements inattendus avec la démission du numéro 2 du Parti travailliste, Tom Watson, qui a jeté l'éponge. Alors il a dit, c'est pas pour les raisons politiques, mais pour les raisons familiales, mais tout le monde sait qu'il s'entendait pas avec Jeremy Corbyn. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour le Parti travailliste, pour les modérés dans le Parti travailliste également, face à Jeremy Corbyn, qui est de l'extrême gauche. Et à droite, c'est guère mieux, parce que Jacob Rees-Mogg, qui est le speaker de la Chambre des communes, est allé à la radio cette semaine, et la semaine dernière, l'année dernière, il y a eu cet incendie dans un immeuble à Londres avec 72 morts, et il a dit à la radio, mais de toute manière, les gens dans l'immeuble n'auraient pas dû écouter les pompiers, ils auraient dû sortir de leur appartement, ils auraient pu sauver leur vie, et donc c'est pas les gens très intelligents.
Alors, évidemment, ça passe mal, il y avait combien de victimes ?
72. Donc voilà. Ça quand même, ça s'est pas très bien passé. Donc c'est très embarrassant pour le Parti conservateur. Et en attendant, il y a le secrétaire d'État pour le Pays des Galles qui également a été obligé de démissionner parce que il n'a pas, il s'est pas expliqué sur un cas indirect dans lequel il est impliqué de viol. Donc tout cela pour un début de campagne, c'est assez rocambolesque.
De part et d'autre, c'est
voilà,
ça qu'on comprend.
Des deux côtés, hein, Parti travailliste et Parti conservateur, les seuls qui sont sortis indemnes pour le moment, et on n'est qu'au deuxième jour, c'est les libéraux démocrates qui veulent pas de Brexit.
Patrick Martin-Jeunier, ça paraît fou une campagne en 5 semaines?
Oui, c'est parti sur les chapeaux de roue, mais très mal parti pour les uns et pour les autres, comme vous l'avez dit, ouais. Avec ce mépris total affiché par Jacob Rees-Mogg par rapport à la Greenwell-Tover. Il a dit que ces gens-là avaient manqué de bon sens, oui. En n'écoutant pas les pompiers. Alors il s'est mis à dos les victimes, les familles des victimes, ouais. Mais également les pompiers, parce qu'il est en train de dire qu'il ne faut pas écouter les pompiers. C'est le même qui s'était endormi sur le banc des ministres il y a quelques semaines, donc ça passe très mal.
Ça c'est mauvais pour Boris Johnson.
Hein. Oui, donc c'est très mauvais pour Boris Johnson, même si, on est d'accord, il caracole en tête, mais attention. Ce week-end dernier, les sondages ont diminué, l'écart a diminué. Il était passé de 15 points d'avance, il est aujourd'hui à 11 points d'avance. Et donc, l'écart peut se resserrer. Et moi, j'ai mémoire des deux dernières élections en plein hiver. C'était au mois de décembre 1923 et au mois de février 1974, où effectivement, les conservateurs étaient partis en tête. Et au final, ils ont perdu ces
c'est
élections.
C'est pour ça qu'on a posé la question ce soir. Boris Johnson peut-il perdre? Il fait figure de favori, mais oui. Il peut y avoir des surprises, même en 5 semaines. Oui. Marc Epstein, je reviens là-dessus, parce que le Sénat du Brexit est fou depuis le début et ça continue. On peut faire campagne sur du fond en 5 semaines. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a des programmes? Il y a un programme de meeting qui sont prévus, ou est-ce qu'on est dans la queue en réalité de la campagne pour ou contre le Brexit?
Il faut voir le paysage politique britannique comme une espèce de zone de sismique et on ne sait même plus très bien où passent les lignes de faille. Il y a une ligne de faille qu'on voit à peu près entre les partisans du Brexit et ceux du Remain, ceux qui préféreraient que le Royaume-Uni reste au sein de l'Union européenne. Et puis, il y a une autre ligne de faille plus classique, mais qui finit par s'estomper, on la perd de vue, entre une gauche franchement très classique, crypto-communiste, une gauche qui tournerait le dos si elle parvenait au pouvoir à tout ce qu'on va appeler les acquis du thatchérisme, donc tout de même 30 ans de politique britannique, et d'une part, et d'autre part, le camp de droite, dirigé par le Parti conservateur et Boris Johnson, qui lui aussi, mine de rien, affiche un programme où il est question, alors tout ça est encore un peu dans les limbes et imprécis, mais il est question, notamment à l'occasion du Brexit, de créer une sorte de Singapour sur Tamise avec une libéralisation, voilà.
Et c'est pas simplement pour ou contre le Brexit. On retrouve des clivages politiques avec des projets politiques clairement de gauche et clairement de droite.
Oui, tout à fait. Et avec, en tant que Britannique d'origine, je dois dire que c'est ce qui me frappe, une violence dans le ton, dans l'ambiance générale. Vous avez un ministre qui était interviewé, je crois, ce matin, à qui un journaliste demandait le plus poliment du monde, si ce n'était pas un tout petit peu exagéré, de comparer Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste, à Joseph Staline.
C'est ce qu'a fait Boris Johnson, on va le voir.
Bon, et quand même, Joseph Staline a fait tuer des millions de gens, en a fait déporter d'autres, etc. Franchement, est-ce que Jeremy... Et vous avez ce ministre qui explique le plus doctement du monde en studio que si, après tout, le parallèle peut... Cette violence de ton-là, elle est assez nouvelle et elle traduit un malaise profond.
Catherine Mathieu, sur le climat de cette campagne, on va rentrer dans le détail, vous êtes plutôt spécialiste des questions économiques. On avait l'impression, depuis ces semaines-là, que c'était un sujet qui avait un peu disparu, alors qu'en réalité, c'est une préoccupation naturellement pour les Britanniques.
Oui, en fait, je dirais que le sujet n'avait pas disparu, en fait. Il faut se rappeler que déjà en 2016, quand il y a eu la campagne du référendum, un des arguments des Brexiteurs, et en particulier de Boris Johnson, c'était de dire que si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne, l'argent qui était versé par les Britanniques à l'Union européenne serait réalloué au service de santé britannique. Et cette question du service de santé britannique, elle est là depuis 3 ans. Et ce qui est intéressant, je pense, aujourd'hui, dans la campagne, c'est qu'à la fois chez les travaillistes et chez les conservateurs, on dit qu'il faut dépenser davantage pour le service de santé britannique public auquel les Britanniques sont attachés, qu'ils soient en fait travaillistes ou conservateurs. Donc là, il y a un clivage qui disparaît quand même largement par rapport à ce qu'on a connu il y a 30 ans avec Margaret Thatcher. Et on a vraiment aujourd'hui, me semble-t-il, un consensus chez les Britanniques pour dire qu'il faut dépenser davantage pour le service de santé. Donc en fait, dans les déclarations récentes de Jeremy Corbyn et de Boris Johnson, on a, si nous sommes élus, nous allons dépenser davantage pour la santé. Et de façon générale aussi, les conservateurs aujourd'hui disent qu'ils dépenseront davantage en termes d'investissement, d'infrastructure, s'ils sont élus. Donc c'est quand même aussi un changement par rapport aux précédentes campagnes des conservateurs. Et on a des lignes qui se resserrent de ce point de vue sur ce que ferait un gouvernement et les besoins d'investissement public de l'économie britannique.
Est-ce que cette campagne passionne les Britanniques pour l'instant, Philippe Turn?
Je dirais que... pas plus que cela. Les gens sont tellement fatigués du Brexit en Grande-Bretagne que l'idée d'aller voter en décembre n'est pas très amusant. Parce que vous imaginez, vous avez quelqu'un en campagne qui frappe à une porte, ils sont en train de faire leur cadeau de Noël. Il dit bonjour, je viens, est-ce que vous avez envie de parler du Brexit? Eh bien, ils vont pas être vraiment le
bienvenu à la
maison.
Le vote, c'est le 12 décembre, on rappelle.
Donc, le Brexit, c'est comme un camion qui est échoué sur un rond-point. Donc, tout le monde tourne autour sans vraiment en parler, mais il est là. Donc, il faut quand même traiter le sujet. Et c'est le sujet de cette élection. Oui. Donc, les conservateurs, ils parlent de la sécurité de santé, de la police, de la sécurité.
On va le voir dans le détail, mais est-ce qu'ils vont voter, les Britanniques?
Alors,
est-ce que, en réalité, le vrai enjeu de ce futur scrutin, c'est aussi de savoir s'il va y avoir une forte participation et que ça redonnera de la légitimité au prochain Premier ministre?
Je pense que... il y a pas mal de gens qui iront voter, mais normalement, les élections sont toujours au mois de mai. Je crois que la dernière fois qu'on a eu une élection en hiver, c'était en 1974, en février. Donc, les Britanniques n'ont pas l'habitude de voter en hiver. Alors, ça dépend le jour même, le 12. Est-ce qu'il neigera? Est-ce voilà. qu'il y aura de la glace? Est-ce que les gens
C'est pas anecdotique ce que voilà. vous expliquez, non. le facteur météo sur le 12. Hein.
Non, c'est absolument vrai. Est-ce que les personnes âgées auraient envie de sortir un jour comme ça pour aller voter? Tout ça, c'est des questions. On n'a pas la réponse. Donc, je pense, parce que les enjeux sont tellement énormes,
quand
les
même.
Gens sont tellement fatigués du Brexit, ils ont envie d'en finir, si on peut. Donc, ils iraient voter, mais je ne peux pas vous dire à quel taux les gens vont se déplacer aujourd'hui.
Oui. Le temps, ce n'est pas une anecdote. Il y a un député écossais qui s'exprimait à la Chambre des communes récemment, qui disait « Chez moi en Écosse, en plein hiver, à 15h30, heure britannique, il fait nuit. » Et en plus, nous parlions tout à l'heure d'un climat de violence. Eh bien, beaucoup de parlementaires ont reçu des menaces et récemment, des consignes ont été données aux parlementaires, notamment les femmes qui ont été attaquées dans leur famille et dans leur vie personnelle, de ne plus faire du porte-à-porte ou de porter un dispositif de sécurité qui les reliera directement au commissariat. C'est vous dire le degré de violence que l'on a atteint aujourd'hui au Royaume-Uni.
Staline contre Thatcher. Dès le début de la campagne, les deux principaux candidats se sont échangés des amabilités et des comparaisons plus ou moins flatteuses, on va dire. Boris Johnson et Jeremy Corbyn sont lancés dans une campagne très courte, une campagne de 5 semaines pour des élections qui décideront en réalité de la suite du Brexit. Laura Rado et Erwan Illion.
C'est au palais de Buckingham que Boris Johnson a hier débuté sa journée marathon. Comme le veut le protocole, la reine a donné son aval pour dissoudre le Parlement. La folle campagne anglaise peut désormais commencer.
Good afternoon. Come with us.
Rejoignez-nous. Faisons ensemble le Brexit et le pays pourra aller de l'avant. Ou alors, c'est l'alternative l'année prochaine. 2020 ressemblera à un spectacle d'horreur avec encore des tergiversations sans fin.
Le Brexit, encore le Brexit et toujours le Brexit. Le Premier ministre veut faire de cet interminable feuilleton son premier thème de campagne. L'objectif, gagner les élections du 12 décembre, récupérer une majorité absolue et enfin sortir de l'Union européenne le 31 janvier prochain. Pour y arriver, tous les coups sont permis, y compris comparer dans la presse son adversaire Jeremy Corbyn au dictateur soviétique Joseph Staline. Boris Johnson met donc toutes ses forces dans la bataille. Pour son premier meeting hier soir, c'est en terre travailliste qu'il s'est rendu à Birmingham, où il a martelé son argument numéro un.
Faisons de l'année prochaine l'année de la prospérité et de la croissance, pas l'année du chaos, avec 2 référendums. Si je reviens avec une majorité au Parlement, je ferai en sorte que ce Parlement soit à votre service. Et dès le premier jour, nous ferons voter notre nouvel accord pour réaliser le Brexit en janvier et laisser enfin l'incertitude derrière nous.
Succès total face à des militants sous le charme.
Il est déterminé à sortir le pays des difficultés que nous connaissons. Sans lui, nous allons couler.
C'est lui le meilleur candidat, c'est vraiment le meilleur.
Je soutenais les travaillistes, mais maintenant je suis à fond derrière Boris Johnson. Pour qu'il fasse le Brexit, fini les bêtises, au boulot.
Pour réussir son pari, le leader conservateur semble bien parti. Un dernier sondage place son parti 16 points devant celui de Jeremy Corbyn. Mais Boris Johnson pourrait-il gagner les élections tout en perdant son siège de député? Si son avance est confortable au niveau national, les ennuis pourraient venir de son propre fief, à Uxbridge, à l'ouest de Londres. Face au Premier ministre sortant, Ali Milani, candidat travailliste de 25 ans, joue à fond la carte de la proximité.
Boris Johnson, just like Trump on the other side of the Atlantic, doesn't care about us because he's not one of us.
We've got an opportunity to make history, to topple a prime minister and to banish Boris.
Jusque-là presque inconnu, ce jeune rival représente aujourd'hui une sérieuse menace, à tel point que Boris Johnson pourrait décider de changer de circonscription au dernier moment, au profit d'une autre plus facile à gagner. Mais un autre caillou s'est glissé dans la chaussure de Boris Johnson, Donald Trump. Interrogé par l'eurosceptique Nigel Farage lors d'une émission radio, le président américain a vertement critiqué l'accord négocié par Boris Johnson avec l'Union européenne.
We want to do trade with UK and they want to do trade with us. And to be honest with you, this deal, under certain aspects of the deal, you can't do it. You can't do it. You can't trade.
Well,
I mean, we can't make a trade deal with the UK. Unlike you. Boris wants to be very careful with that.
Yeah, I mean, that's the problem.
Yeah, because under certain ways, we're precluded.
That's the problem.
Which would be ridiculous.
Yeah.
Trump, Staline. Tous les ingrédients d'une campagne débridée sont donc réunis. Tous les coups sont permis. Le dernier vient de Jeremy Corbyn. Il accuse Boris Johnson de favoriser les ultra-riches et de vouloir transformer le Brexit en thatcherisme sous stéroïdes.
Effectivement, tous les coups ont permis. On va revenir sur les déclarations de Donald Trump, parce que c'est assez incroyable qu'il soit aussi présent dans la campagne britannique. Mais d'abord, cette question qui nous est posée ce soir. Que se passera-t-il si Johnson perd les législatives ?
Écoutez, si on regarde ce qui s'est passé en 1974, les conservateurs peuvent très bien arriver avec une majorité une majorité en pourcentage, mais pas en siège. Car il peut y avoir des coalitions, même si les libéraux ne sont pas pour les travaillistes de Jeremy Corbyn, il peut y avoir des alliances de circonstances entre les nationalistes écossais, les libéraux, les travaillistes, les nationalistes gallois, pour renverser Boris Johnson. Donc il pourrait très bien qu'à l'issue du 12 décembre, le lendemain, Boris Johnson soit obligé de quitter Downing Street parce qu'il n'aurait pas une majorité en siège. Par exemple, pas plus tard qu'hier, les libéraux ont passé un accord avec les nationalistes gallois un autre parti nationaliste gallois. Donc les libéraux, j'en oublie un autre.
J'ai oublié le troisième, c'est pas grave.
J'ai oublié le troisième.
Quelqu'un peut aider Patrick Martin,
les
indépendants. Voilà.
Pour dire effectivement... qu'il n'y ait qu'un seul candidat dans des circonscriptions, ce qui pourrait faire basculer plusieurs sièges, en d'autres termes, faire gagner aux personnes, aux députés, aux politiques qui veulent rester dans l'Union européenne, entre 40 et 45 sièges supplémentaires, ce qui pourrait effectivement faire peser sur l'arithmétique parlementaire et obliger éventuellement Boris Johnson à quitter Downing Street.
Boris Johnson peut-il perdre ? C'est la question qu'on pose ce soir. Vous dites... peut-être pas en voie, mais peut-être qu'il arrivera à faire
absolument une
coalition face à lui qui pourrait le mettre en difficulté. La question, c'est qu'est-ce qui se passe s'il perd ? Il se passe quoi ? Il quitte le pouvoir et
s'il perd, il quitte le pouvoir. Il y a la nomination d'un nouveau Premier ministre qui va atteindre Downing Street et qui aura, selon les promesses électorales qu'il a faites, qui éventuellement, si c'est Jeremy Corbyn, il y aura de grandes difficultés, pourrait resoumettre à référendum un nouvel accord de sortie de l'Union européenne. J'en profite pour dire que l'Union européenne a d'ores et déjà dit qu'elle était prête à reporter ce délai au 31 janvier.
On n'était plus du tout au 31 octobre, maintenant on est au 31 janvier. Mais on va revenir. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous expliquez, Catherine Mathieu.
Oui, peut-être rappeler que ce scrutin au Royaume-Uni pour les législatives, c'est un scrutin à un tour, majoritaire à un tour. Donc il faut vraiment que le candidat qui arrive en tête sera celui qui sera député. Donc il n'y a pas un deuxième tour. Donc il faut que les électeurs britanniques se positionnent dès le premier tour sur le candidat dont ils pensent qu'il représente le mieux leurs idées. Et donc on a une situation qui est un peu différente de celle qu'on connaît en France. On n'a pas de scrutin à deux tours. Dès le premier tour, tout est joué. Donc si Boris Johnson, du moins si les conservateurs n'arrivent pas en tête dans une majorité de circonscriptions au Royaume-Uni, très probablement ce seraient les travaillistes qui seraient en tête.
Il fait une bonne campagne, Boris Johnson. Depuis le début, on met de côté les difficultés qu'il y a eu qui concernent ses proches. Il fait une bonne campagne. Et sur quoi fait-il campagne précisément ?
Alors, ça dépend de ce qu'on appelle une bonne campagne. Et par rapport à Theresa May, il n'y a pas photo, parce que Boris Johnson, il a quelque chose que Theresa May n'avait pas. Et ça, c'est le charisme et une façon de parler en public qui attire les foules. C'est quelqu'un qui... est très connu en Grande-Bretagne parce qu'il était ancien chroniqueur à la télévision, était journaliste dans les journaux, le Daily Telegraph, le Spectator et autres. Donc c'est un personnage, il était ancien maire de Londres, tout le monde le connaît, tout le monde appelle par son prénom. Donc il est...
C'est lui qui fait l'attractivité de la campagne.
Exactement.
Elle se fait autour de lui.
Et les gens, ils vont pas nécessairement pour voter conservateur, mais parce qu'ils ont envie de voir Boris. Ils ont envie de le voir parler, parce qu'il est drôle, quand des anecdotes. Il a une façon de parler qui est très familière aussi. Donc, il a un agenda qui est assez populiste, à savoir, venez avec nous, il dit tout le temps, venez avec nous, on a un deal avec l'Union européenne qui est déjà oven ready, prêt à mettre au four, il faut juste pousser le bouton et on sort le deal et on avance avec le Parti conservateur, il faut parler avec les travaillistes parce que c'est un parti de vieux jeu qui va nous replonger dans les années 70, qui va nous faire augmenter les impôts, etc. Et les gens, c'est un peu comme Donald Trump, les gens disent, ouais, c'est bien, on est content de l'entendre. Et... l'idée aussi, bon, on va finir avec le Brexit, let's get Brexit done. On en finit avec le Brexit et ensuite on passe à autre chose avec de l'investissement dans la police,
la santé,
dans la sécurité, dans les hôpitaux. Mais il faut voir quand même, emprunter de l'argent pour faire tout cela. Donc là, il reste un peu flou sur d'où vient l'argent, pour combien de temps est-ce qu'on va augmenter les impôts, parce que tôt ou tard, les impôts doivent augmenter. Mais il veut faire de sa compagne, il veut faire de cela l'après-Brexit. C'est-à-dire que venez avec nous, le Brexit, on va le faire et ensuite on passe à autre chose.
La promesse, Mark Epstein, c'est de tourner la page avec Boris Johnson en disant ce que vous avez, c'était assez important, parce qu'il dit aux Européens, on a un accord. Donc si vous votez Boris Johnson, en gros, on peut avancer du côté de l'Europe et faire enfin tourner la page du Brexit.
Oui, la grande phrase de Boris Johnson, c'est vraiment celle-là. C'est « Let's get Brexit done ». Ouais. Et derrière, c'est compliqué d'ailleurs à traduire, à faire comprendre ce qu'il y a derrière cette expression, c'est « finissons-en ». C'est aussi ça. « Réglons ce dossier, n'en parlons plus ».
Ça doit plaire aux Britanniques quand même, non ?
Et ça, bien sûr que ça plaît aux Britanniques. Et quand, dans son premier discours de campagne hier, il évoque ce four à micro-ondes, il dit « L'accord est prêt, on va le mettre au four ». L'image est assez bien trouvée, parce que c'est, en effet, on n'en peut plus. Et ça, c'est sûr. Qu'on soit pour ou contre le Brexit, on n'en peut plus. Ouais. Donc l'image du four à micro-ondes marche assez bien. C'est une bête politique, Boris Johnson. C'est quelqu'un qui vient de l'élite traditionnelle anglaise, qui est passée par Oxford, par Eton. Et à Oxford, il a été, comme beaucoup de premiers ministres conservateurs dans l'histoire du pays, il a été à un moment le président de la Oxford Debating Society, l'espèce de fraternité où on débat au sein de l'université d'Oxford. Et c'est, de ce point de vue, une sorte de bête de scène. Et une de ses forces aussi, c'est qu'il il affiche cette volonté, ce déterminisme, et en même temps, il a ce côté un peu bonhomme, une blague
rond.
Qui fait qu'il n'apparaît pas menaçant.
Où sont ses faiblesses, alors, dans cette campagne? Vous nous disiez tout à l'heure, Patrick Martin-Jeunier, en commençant cette émission, que les sondages, on en a vu un là dans le reportage qui datait du 1er novembre, mais ceux qui datent du 6 novembre montrent qu'il y a un effritement du vote conservateur. Donc où sont ces points de fragilité? Contre quoi doit-il se battre? On va parler de Jeremy Corbyn dans un instant, mais où sont ces lignes de faiblesse?
Alors, hormis le fait d'être une bête politique, une bête de scène, vous avez vu ce premier meeting, ça ressemble à un meeting de Trump. Il sait faire ça. Mais ses faiblesses, c'est qu'il est constamment dans le mensonge, tout en essayant d'être objectif. Car que dit-il? En 100 jours de Premier ministre, j'ai créé 40 hôpitaux, j'ai créé 20 000 emplois de policiers, alors qu'il n'a rien créé du tout. Et on est en train de dire qu'il va, je passe sous votre contrôle, créer un fonds de 400 milliards d'investissements pour les infrastructures, alors qu'il n'y a plus d'argent. Et d'ailleurs, l'ancien ministre des Finances, Osborne, a dit que, de toute façon, un jour, ce sera une augmentation des impôts. Donc, le problème de Boris Johnson aujourd'hui, c'est qu'il manque de crédibilité, c'est sa première faiblesse. Et sa seconde faiblesse très importante, c'est qu'il s'est mis à dos un certain nombre de parlementaires, et notamment sur le Brexit, on parlera peut-être après, mais les unionistes nord-irlandais, il les a trahis et ils ne veulent absolument pas de son accord. Donc, si...
Y compris dans son camp ? Il s'est fait des ennemis ?
Oui, bien sûr, dans son camp, parce qu'on considère qu'il va y avoir une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre, et ça, personne n'en veut en Irlande du Nord. Et ça, effectivement, c'est des gens qui ne sont pas pour lui. C'est ses principales faiblesses, son manque de crédibilité. Et enfin, cette montée, on va dire, du racisme ordinaire, beaucoup de la part des conservateurs ont des propos avec des propos racistes du style « les immigrés dehors, ils nous prennent nos emplois », et ça continue. C'est bis repetita par rapport à la campagne sur le Brexit.
Catherine Mathieu ?
Oui, peut-être par rapport à ce que vous avez dit à l'instant sur ce que proposent les conservateurs dans leur campagne. En fait, le chancelier de l'Échiquier, aujourd'hui, a fait une annonce de dépenses de 20 milliards de livres par an pour les dépenses d'infrastructures, ce qui correspond à peu près à 1% de produit intérieur brut. Alors, ça n'est pas quelque chose d'énorme, hein, parce qu'aujourd'hui, l'investissement public britannique est de moins de 2% du produit intérieur brut. Ça le porterait à 3%. C'est à peu près la moyenne qu'on a longtemps eue dans l'Union européenne. Et donc, c'est quelque chose qui semble assez raisonnable vu les dépenses d'infrastructures nécessaire pour le Royaume-Uni. Donc moi, je dirais, c'est pas sur l'aspect économique que Boris Johnson me semble le plus faible aujourd'hui, mais c'est plus par rapport effectivement à, y compris à sa vie personnelle et aux différents problèmes qu'il y a autour de lui depuis un moment, le fait qu'il est tout de même un peu poursuivi pour avoir aidé une Américaine à financer son entreprise. Enfin bon, il est dans
il a des affaires.
Il a des affaires qui le gênent. Et je pense à un moment donné, dans la campagne, ça peut prendre ouais. de l'ampleur.
Même dans une campagne très courte.
Mais elle est généralement courte, la campagne au Royaume-Uni. Hein. Donc celle-là, pour moi, elle est à peu près dans les délais habituels.
Ça, c'est curieux pour nous, parce que nous, on a l'impression de toujours être en campagne. Donc vous, vous dites 5 semaines de campagne, en Grande-Bretagne, ça se passe comme ça.
Il y a une autre chose qui est importante, c'est que Boris Johnson a aussi une autre menace, c'est Nigel Farage. On l'a vu tout à l'heure dans ses reportages radio, qui ne sera pas candidat lui-même pour l'élection, mais son parti, le Brexit Party, n'est pas en accord avec ce que Boris Johnson propose. Ce que Nigel Farage veut, c'est que Boris Johnson jette l'accord avec l'Union européenne à la poubelle et qu'il se met ensemble pour avoir un Brexit, comme il dit, propre. On coupe les ponts avec l'Europe, etc. Donc il est possible que ceux qui sont pour le Brexit, qui sont des électeurs conservateurs, qui ne sont pas d'accord avec ce que Boris Johnson fait, qui pensent que son accord, c'est un Brexit soft, c'est pas assez, ça ne va pas assez loin, sont tentés par Nigel Farage. Et ça peut diviser aussi l'électorat conservateur en faveur du Parti travailliste. Donc, pour le moment, chaque côté reste sur sa position, mais peut-être, quand on arrive plus près de la date de l'échéance, il y aura peut-être quelques accords entre les candidats du parti Brexit et les conservateurs pour ne pas perdre un siège face à Jeremy Corbyn du parti travailliste.
Et d'ailleurs, c'est ce que réclame un certain Donald Trump.
C'est exact.
Hein, Donald Trump qui se mêle donc de la campagne et qui dit à Boris Johnson et Nigel Farage, bah, vous allez finir ensemble.
Oui, mais ce n'est pas pour le moment à l'ordre du jour, malheureusement. Et c'est très mal vu, je pense, de l'électorat britannique que Donald Trump vient mettre son doigt dans la campagne électorale britannique. Là, cette conversation, parce que il faut expliquer le topo, c'est que Nigel Farage présente un talk show tous les jours sur une radio locale à Londres qui s'appelle LBC, où le public peut appeler pour discuter avec lui sur le Brexit, sur d'autres problèmes. Et puisqu'il est allé plusieurs fois aux États-Unis, il est allé voir Donald Trump, il a réussi à faire intervenir Donald Trump dans son émission l'autre jour. Et donc Donald Trump a dit ce qu'il pensait de Jeremy Corbyn, a dit à
Boris Johnson, c'est un homme fantastique, c'est l'homme qu'il faut en ce moment. Et sur Corbyn, effectivement, il a été un peu plus dur. Il a dit « Corbyn serait tellement mauvais pour votre pays ». Et il a effectivement dit « Farage Johnson,
alors, je pense que Farage a quelque part envie, mais en même temps, Farage sait que s'il va avec Boris Johnson, il va être sous la lumière de Boris Johnson, et c'est Boris Johnson qui sort la vedette, et plus lui. Et lui, il aime bien être le trublion. Donc je pense que quelque part, il n'a pas trop envie. Il a envie, on voyait un sourire quand Donald Trump disait ça, mais il sait que s'il rejoint Boris Johnson, Boris Johnson va l'écraser, et donc il va perdre de la visibilité.
Mais vous avez dit quelque chose d'important, vous avez dit c'est mal vécu par les Britanniques, le fait que Donald Trump, à un moment donné, vienne leur faire la leçon, c'est ça?
Il y a quand même un paradoxe complètement incroyable dans cette histoire. Les partisans du Brexit, dont le champion dans cette campagne est Boris Johnson, leur grand slogan, c'est « to take back control », de reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle au niveau du Parlement et reprendre le contrôle vis-à-vis de l'Union européenne, retrouver une indépendance, etc. Et vous avez là une conversation à la radio qui réunit un chef d'État étranger qui se mêle de la campagne et auquel déroule celui qui lui déroule un tapis rouge, c'est Nigel Farage, donc le plus grand champion, prétendument, du Brexit, et donc d'une forme de souveraineté nationale. Et c'est là qu'on voit tout de même à quel point les partisans du Brexit, je suis d'accord avec vous, ont cumulé et continuent à cumuler une quantité de mensonges qui est tout de même assez sidérante. Une partie de cette campagne, avant le référendum de juin 2016, c'est quand même vieux, une partie de la campagne, elle portait sur l'immigration, on allait contrôler l'immigration, etc. Le lendemain du référendum, Boris Johnson explique que, naturellement, rien ne va changer pour ce qui est de l'immigration. Il s'en fout complètement. Mais c'est une bête politique, et il peut se le permettre.
la dernière fois, et je vous rejoins totalement, que quelqu'un s'est mêlé du Brexit, c'était Barack Obama. Il a rencontré David Cameron et il a dit « Ah non, il ne faut pas sortir de l'Union européenne, vous serez en bas de la queue après ». Et naturellement, personne n'a écouté Barack Obama puisqu'on a voté le Brexit. S'agissant de Nigel Farage, donc ça, cet épisode va être très mal vécu, va pouvoir bénéficier à l'opposition d'une part, et Nigel Farage aurait été tenté éventuellement par une alliance avec Boris Johnson. Il renonce lui-même à se présenter. Pourquoi ? Parce qu'il présente un candidat systématiquement dans 600 circonscriptions. Donc c'est quelqu'un qui peut faire du mal, effectivement, localement. Car il ne faut pas oublier que ce scrutin, ce n'est pas un scrutin présidentiel, c'est un scrutin qui va se jouer circonscription par circonscription.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi Donald Trump dit Boris Johnson est fantastique, c'est celui qui vous faut en ce moment, et dans le même temps il dit non mais le problème c'est que son accord c'est un mauvais accord, et s'il le maintient, je ne pourrais pas faire des deals, puisque Donald Trump fait des deals avec lui. C'est quoi le problème dans l'accord qui a été conclu avec l'Union européenne pour Donald Trump? Parce que visiblement il a son mot à dire.
Alors le problème c'est que l'accord qui a été conclu par Boris Johnson avec l'Union européenne ne va pas assez loin pour Donald Trump, c'est-à-dire qu'en fait, le Royaume-Uni s'engage à maintenir un certain nombre de réglementations communes avec l'Union européenne, et donc ne dit pas à Donald Trump, eh bien, dès que nous serons sortis, nous aurons complètement repris le contrôle et nous pourrons signer des accords bilatéraux avec vous tout à fait librement. Il y a dans l'accord négocié par Boris Johnson une présence, je dis quand même parce qu'elle est moins forte dans cet accord, la présence d'un lien qui resterait en termes de réglementation avec l'Union européenne que ce qui avait été signé par Theresa May, mais tout de même, Boris Johnson n'a pas osé aller jusqu'au bout de la logique et dire on sort complètement et on reprend complètement la main sur tout. Et il y a derrière cet élément, un autre élément qui est présent depuis plusieurs mois dans les discussions au Royaume-Uni et entre Boris Johnson et Donald Trump, qui est cette fameuse question du système de santé britannique, où Donald Trump voyait d'un très bon œil le fait que si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne avec Boris Johnson menant le Brexit, eh bien les compagnies de santé américaines pourraient se présenter sur le marché britannique et proposer des services médicaux et des médicaments aux Britanniques. Et là, tout de suite, bien sûr, les travaillistes ont dit attention, attention, vous voyez ce que ça fera si on signe un Brexit trop dur. Il y aura l'arrivée des Américains sur le marché britannique.
Donc, ça veut dire que c'est
un caillou dans la chaussure de Boris Johnson.
C'est intéressant parce que ça veut dire que ce n'est pas simplement une interview accordée à son ami Farage. Il y a vraiment un enjeu dans cette campagne sur le rôle que peuvent jouer les Américains et l'Amérique de Trump par la suite.
Bien sûr. Et vous savez que Donald Trump est actuellement dans une logique, depuis 2016, avec chaque pays, avec de nombreuses zones de l'économie mondiale où il essaye complètement de briser les accords commerciaux, les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et le Royaume-Uni fait partie de cette stratégie.
En tout cas, face à Boris Johnson, le Parti travailliste espère encore faire chuter le Premier ministre avec un programme radicalement de gauche porté par Jeremy Corbyn. Mais le leader du Labour a bien du mal à faire l'unanimité. Nous nous sommes rendus dans l'un des fiefs historiques de ce parti. Vous allez le voir, le Brexit a fracturé la gauche anglaise. Reportage Juliette Vallon et Arnaud Fora.
Durham, dans le nord-est de l'Angleterre. Une ville connue pour sa cathédrale médiévale, mais pas seulement. C'est aussi l'un des plus vieux bastions travaillistes du Royaume-Uni.
Bonjour, on traque pour le Labour pour les prochaines élections du 12 décembre.
Ce matin-là, Harry, 27 ans, est en campagne pour le Labour, un mois, pour convaincre les habitants de voter pour le parti de Jeremy Corbyn.
Cette décision d'élection a été prise à la hâte, elle va avoir lieu en moins de temps que ce que l'on pensait, mais on le savait depuis longtemps, donc le Labour a eu le temps de développer sa politique, de construire ses réseaux dans tout le pays, d'élaborer une stratégie qui, on l'espère, va nous faire gagner.
Gagner, ça ne l'est pas encore.
Non.
Rends-lui ça.
Ok.
Pourquoi pas?
Jamais.
Never.
Parmi les passants, beaucoup critiquent le leader du Labour, Jeremy Corbyn.
Jeremy Corbyn n'est pas fait pour être un leader d'un pays de l'Ouest. Sa place, c'est en Amérique du Sud ou ailleurs.
Pourquoi?
Parce qu'il va nous ramener au communisme, c'est tout ce qu'il va faire.
Il est trop à gauche?
Oui, beaucoup trop à gauche.
J'hésite entre les libéraux-démocrates et le Labour. Les Lib Dems sont très clairs sur le Brexit, alors que le Labour n'a jamais été clair sur la question.
Depuis des mois, Jeremy Corbyn souffle le chaud et le froid sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Objectif : contenter à la fois son électorat pro-Europe et les Brexiteurs modérés. Mardi, lors d'un meeting, il s'est finalement prononcé pour un Brexit soft, un nouvel accord avec Bruxelles.
Les conservateurs ont échoué avec le Brexit pendant 3 ans. Avec le Labour au gouvernement, nous sortirons de cette crise en 6 mois en vous laissant, vous, le peuple britannique, décider. Nous soumettrons le deal passé avec Bruxelles au référendum.
La question du Brexit, ce n'est pas la clé des élections législatives à Durham pour Alan, secrétaire général de l'Association des anciens mineurs de la ville.
Voilà plusieurs peintures des mines de Durham, aucune n'a survécu. Alors on a voulu garder cette histoire et la faire vivre, surtout pour les jeunes. Ça fait 26 ans que la dernière mine a fermé.
En 1993, Alan a vécu la fermeture de la dernière mine à charbon de la région et fait partie de l'électorat historique du Labour. Pour lui, aujourd'hui, le programme de Jeremy Corbyn, qui promet de nationaliser de nombreux secteurs, représente un immense espoir pour la working class, les ouvriers.
On va reprendre le contrôle de notre eau, de notre électricité, de notre gaz. On va faire en sorte que le secteur public s'occupe mieux de ses industries que ne le fait le secteur privé. C'est un changement radical de direction. Mais pour ce pays, on a besoin de retourner à ça. Et Jeremy Corbyn peut réussir ce changement.
Capter l'électorat travailliste, c'est l'objectif que s'est aussi fixé le Brexit Party, le mouvement politique de Nigel Farage. À quelques kilomètres de Durham, le candidat Glenn Thompson tente de surfer sur les ambiguïtés de Jeremy Corbyn. À ses côtés, Paul, un électeur déçu du Labour, qui a changé de camp.
Jeremy Corbyn a été contre l'Europe toute sa vie. Et d'un coup, il est convaincu qu'il faut rester dans l'Europe. Pour des raisons électoralistes. Mais il a trahi les gens du Nord.
Le Labour promet des nationalisations, mais c'est fantaisiste. Au fur et à mesure que l'élection va se rapprocher, les gens vont se rendre compte très clairement à quel point leur politique est irréaliste.
Arrivé en tête aux dernières élections européennes, le Brexit Party de Nigel Farage occupe aujourd'hui la dernière place dans les sondages, derrière les libéraux-démocrates, les travaillistes et le Parti conservateur, toujours en tête.
Mais il pourrait bien jouer les trouble-fêtes et les faiseurs de rois, hein, c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, le parti de Nigel Farage. À l'issue de ce reportage, on se dit, est-ce que le Brexit, c'est la question qui nous est d'ailleurs posée ce soir, le Brexit a-t-il détruit la gauche anglaise ?
Détruit peut-être pas, mais vraiment divisé, oui. Et je dirais que le Parti travailliste est à l'errance en ce moment parce que la politique proposée par Jeremy Corbyn est tellement floue et tellement peu claire que les électeurs sont en train de se perdre en ne pas sachant en avance pourquoi ils votent ou pour quelle chose ils vont voter. Parce que Jeremy Corbyn ne dit pas ce qu'il veut. Il dit, voilà, nous allons réussir à renégocier un deal avec l'Union européenne. Ensuite, on va faire un deuxième référendum. Je ne vous dirai pas s'il faut voter oui pour rester ou non pour partir. Vous déciderez et ensuite on appliquera. Mais je n'ai aucune consigne de vote. C'est le chef du Parti travailliste. Donc les gens disent, mais on ne comprend pas ce que Jeremy Corbyn veut vraiment obtenir. Et c'est le grand problème de ce parti en ce moment, c'est divisé entre les pro-Brexit, les anti-Brexit, et Corbyn est au milieu de tout cela, donc il court 2 chevaux en même temps, et il ne peut pas faire plaisir aux deux, donc il ne dit rien, et les gens se perdent. Et c'est pour ça que le parti du Brexit trouve du soutien, que les libéraux-démocrates également, et pour schématiser, si vous voulez un Brexit, vous voterez pour le Parti conservateur. Si vous voulez un nouveau référendum, vous voterez pour les travaillistes. Et si vous ne voulez pas de Brexit, vous voulez rester dans l'Union européenne, vous voterez pour les libéraux-démocrates. Ouais. Donc, au milieu de tout ça, le Parti travailliste est vraiment dans une position où on ne peut pas être plus flou.
Mathieu.
Je vais essayer de défendre un petit peu le Parti travailliste aujourd'hui comme un britannique, parce que comme vous le disiez à l'instant, il y a tellement de divisions à l'intérieur du Parti travailliste, en particulier sur cette question du Brexit. Ça fait 3 ans qu'à chaque congrès annuel, les travaillistes discutent pour savoir bon, qu'est-ce qu'on dit. Alors il y a quand même l'aspect démocrate très fort qui est présent dans la société britannique et qui dit qu'il y a eu un vote en 2016, il faut respecter ce vote. Et puis en même temps, il y a oui, mais derrière ce vote, quelles seraient les conséquences économiques d'une sortie? Et je pense que Jeremy Corbyn, progressivement, a intégré cet élément en disant, si nous sortons, il faut avoir négocié au préalable un bon accord pour l'économie britannique et pour les emplois au Royaume-Uni. Et donc c'est pour ça qu'il dit, si nous, les travaillistes, sommes élus, nous renégocierons un accord avec l'Union européenne qui sera meilleur que celui négocié par les précédents.
Meilleur pour qui ?
Pour l'économie britannique. C'est ce qu'il dit. Oui. Et au bout de 6 mois, c'est là que ça semble très ambitieux, effectivement. Un, de pouvoir renégocier un meilleur accord. Deux, de pouvoir le faire en 6 mois, quand on a vu déjà tout ce qui s'est passé depuis 3 ans. Et puis ensuite, il dit quand même, je pense que là, il écoute beaucoup ce qu'ont dit les travaillistes, c'est, on fera un référendum sur, en demandant aux Britanniques, est-ce que vous souhaitez cet accord ou est-ce que vous souhaitez que nous restions dans l'Union européenne ? Donc il dit des choses quand même assez précises, en fait.
Oui, il dit assez précisément.
Mais parce qu'en fait,
précisément. Parce qu'il est coincé pour les raisons que vous expliquez à l'avant, qu'il a un parti qui a divisé. Vous parlez de l'Europe. L'Europe qui est quand même très patiente dans cette histoire-là, et qui a dit, enfin, Jean-Claude Juncker dit, ce n'est pas réaliste de dire on veut un nouvel accord et d'organiser un nouveau référendum, qui est donc la proposition de Jeremy Corbyn.
Oui, alors l'Europe table d'ores et déjà sur un report. Il n'y a pas que Jean-Claude Juncker, il y en a d'autres. Et d'ailleurs, maintenant, il va y avoir avec la nouvelle présidente von der Leyen, plus le nouveau président du Conseil européen. Tout le monde est en train de dire, y compris Michel Barnier, a dit, bon, attention, on va voir ce qui sort des élections. Nous sommes prêts à reporter au-delà du 31 janvier et éventuellement jusqu'au mois de juin 2020. Donc on voit bien que, parce qu'on croit qu'il va y avoir une majorité conservatrice écrasante, rappelez-vous l'échec de Theresa May, il se pourrait très bien que ce Parlement soit aussi divisé.
On peut se retrouver au lendemain des élections avec un scénario identique, c'est-à-dire une chambre qui soit incapable de trouver une majorité.
Absolument. Bon. Il y a Nigel Farage qui présente des candidats dans toutes les circonscriptions. Il y a le Parti libéral, comme je vous dis, qui a passé un accord avec les nationalistes et gallois. J'ai retrouvé le parti, ce sont les Verts. Et les Verts vont également avoir un rôle important. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir un groupe de pro-Remain, c'est-à-dire les gens qui veulent rester d'une cinquantaine de parlementaires, les nationalistes écossais, qui vont probablement faire le grand chelem en Écosse. Ce qui veut dire qu'on va avoir une coalition de partis politiques qui risque de rendre ce Parlement de nouveau ingouvernable. Nous parlions de Jeremy Corbyn, c'est quelqu'un qui gère son parti un peu à la soviétique, si vous me passez l'expression. Il y a effectivement l'extrême-gauche qui a pris le pouvoir au sein du Parti travailliste, mais qui ne correspond pas à la sociologie du groupe parlementaire qui est bien plus modéré. Beaucoup de parlementaires sont partis du Parti travailliste parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la position d'extrême-gauche de Jeremy Corbyn.
Mais ça veut dire quoi, une position d'extrême-gauche? Concrètement, dans les programmes, qu'est-ce qu'il propose?
Il veut proposer la nationalisation de tous les secteurs, transport, industrie, toute une série de choses qui ne se fait plus également. La poste également. Il veut réintroduire donc le service public, bien, mais en nationalisant. Il veut également endetter l'État de nouveau. Il parle d'endettement. Il est vrai, on peut le défendre un peu. Il y a des initiatives, des propositions qui visent à désenclaver le Nord, Manchester, Birmingham également. Il a proposé la création d'un nouveau fonds social de 150 milliards de livres, etc. Mais c'est une position très à gauche, anti-libérale, anti-entreprise, et il veut faire payer les riches, comme il dit. Donc effectivement, c'est quelque chose qui fait peur, c'est ça, sa position très ambiguë sur le Brexit. Et enfin, il faut quand même le dire, tous ces problèmes qui sont liés à l'incapacité, semble-t-il, on l'accuse d'être incapable de lutter contre ce qu'on appelle l'antisémitisme institutionnel au sein du Parti travailliste. Et d'ailleurs, il faut dire que le mouvement juif travailliste a décidé de ne soutenir aucun candidat travailliste, ce qui pourrait également lui créer beaucoup d'handicaps. Et enfin, Jo Swinson, la leader libérale, a dit qu'il était hors de question, de soutenir Jeremy Corbyn comme Premier ministre.
Boris Johnson, il dit la haine des riches. C'est l'angle d'attaque de Boris Johnson contre Jeremy Corbyn, outre mettre de côté pour 2 minutes le Brexit, c'est de dire, en gros, évidemment, le programme économique n'est pas réaliste, c'est Staline, et il a la haine des riches.
Oui, et pour le coup, il faut peut-être faire un petit flashback ici pour les Français. En France, on a cette idée que Margaret Thatcher est arrivée au pouvoir et qu'en gros, elle a cassé l'industrie automobile, elle a cassé le secteur des mines au Royaume-Uni, etc. Et que cette femme à poigne a totalement transformé le pays. Elle a transformé le pays, mais le modèle, si Margaret Thatcher a pu être élue au départ sa réélection doit beaucoup à la guerre des Malouines. Mais son élection au départ, je peux vous en parler parce que j'étais enfant en Angleterre. Quand j'allais au cinéma, que j'avais 12 ans, il y avait le propriétaire du cinéma qui se pointait devant l'écran et qui expliquait qu'en cas de coupure électrique, il y aurait des gens qui seraient là avec des torches et qu'on vous amènerait à la sortie, on vous donnerait un petit bon pour revenir voir la fin du film. Parce que les grèves des mineurs, c'était ça. C'est-à-dire, l'électricité était coupée régulièrement, les grèves des trains. Je me souviens qu'on théorisait sur la semaine des 4 jours, sur la semaine des loisirs, le taux d'impôt maximum était, si ma mémoire est bonne, de 92%. Tout ça, en particulier chez les Britanniques un peu âgés comme moi, tout ça reste en mémoire. Et le Royaume-Uni, aujourd'hui, de par la période Thatcher, est un pays complètement transformé, qui, en effet, je pense, pour une partie de la population, a peur, bien sûr, a peur du programme, en effet, d'extrême-gauche de Jeremy Corbyn.
Donc il a raison, plutôt, Boris Johnson, d'utiliser cet argument dans la campagne. Ça trouve un écho dans ces générations que vous évoquez à l'instant.
Bien sûr. Et en même temps, chaque camp est à front renversé, en ce sens qu'il n'y a pas que le clivage droite-gauche, il y a le fameux clivage du Brexit. Or, qui a voté pour le Brexit ? Les gens qui ont, grosso modo, profité de la mondialisation économique. Les habitants de Londres, du Grand Londres, le sud-est de l'Angleterre, si on s'en tient à l'Angleterre. En revanche, le vote favorable au Brexit et donc hostile à l'Union européenne, vous le trouvez dans l'équivalent anglais de l'Alsace-Lorraine, là où il n'y a plus de mines, où les emplois ont été détruits. Et donc, ce n'est pas un terrain de chasse évident pour le Parti conservateur. Or, le Parti conservateur a besoin de convaincre cet électorat traditionnellement travailliste de changer de camp.
Et ils sont parfois, ceux-ci, on l'a vu dans le reportage, partis du côté de Nigel Farage et du parti pro-Brexit, des Brexiteurs durs, on va le dire. En Écosse, en tout cas, c'était une autre question que l'on veut répondre le 12 décembre, celle de l'indépendance. Lors du dernier référendum, c'était en 2014, 55% des Écossais avaient voté pour rester dans le Royaume-Uni. Cette fois-ci, la patronne du Parti national écossais et première ministre rêve de rejouer le match et d'envoyer un signal fort aux Anglais. Nous avons suivi des militants indépendantistes. Reportage Juliette Vallon et Arnaud Forat.
Samedi dernier, sur les routes écossaises, une drôle de chorale composée de militants indépendantistes.
C'est du vieil écossais. Ça dit que les gens qui croient vraiment en la liberté et l'indépendance doivent se mobiliser et faire entendre leur voix.
Parmi les passagers, April et June, deux jumelles apprêtées pour l'occasion. Pour elles, aucun doute, l'Écosse se porterait bien mieux hors du Royaume-Uni. Nous voulons avoir tout notre argent, nous occuper de nos taxes, de nos revenus. Nous pourrons utiliser tout ça bien mieux que ne le fait Westminster aujourd'hui.
Nous voulons un système juste. Nous ne l'aurons jamais avec Westminster. Nous n'avons rien contre les Anglais. Nous avons des amis et des connaissances qui sont anglais. C'est vraiment à Westminster que nous en voulons.
Point d'arrivée, Glasgow, où des milliers d'indépendantistes se sont donné rendez-vous. La star du jour, c'est elle. Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise qui se verrait bien organiser un nouveau référendum sur l'indépendance en 2020. Et pour y parvenir...
Nicola Sturgeon!
Quoi de mieux que de peser dans les prochaines élections législatives organisées dans un peu plus d'un mois? C'est en tout cas l'objectif de la chef de file du Parti national écossais.
Nous devons tous faire en sorte au cours des prochaines semaines de persuader tous ceux que nous connaissons, notre famille, nos amis, nos voisins, de se mobiliser le 12 décembre prochain pour envoyer un message clair à Westminster. Il est temps pour l'Écosse d'être maître de son propre avenir. Il est temps pour l'Écosse d'être un pays indépendant.
Un discours
qui exaspère les Écossais anti-indépendantistes venus manifester à quelques mètres seulement du rassemblement.
Nous sommes ici aujourd'hui pour dire à Madame Sturgeon et au Parti national écossais qu'il ne parle pas au nom de toute l'Écosse.
La perspective d'un nouveau référendum, un déni de démocratie pour ceux qui ont voté contre l'indépendance il y a 5 ans.
Je pense qu'il y a eu une injustice. On a eu un référendum en 2014 et le résultat était clair. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir été trompé. C'est cette injustice qui fait que je suis là aujourd'hui.
Nous voulons rester avec le Royaume-Uni. Nous avons combattu ensemble à la guerre. Nous voulons rester unis. Un débat qui agite toute la nation jusqu'au banc de l'université de Glasgow.
Tu as voté quoi au dernier référendum ?
J'ai voté pour rester au sein du Royaume-Uni.
Et est-ce que tu as changé d'avis ?
À 100%.
Pourquoi ?
Parce que je suis une passionnée de l'Union européenne et je voudrais rester dans l'UE.
Ici comme ailleurs, le Brexit a rebattu les cartes sur la question de l'indépendance.
Je pensais qu'on dépendait énormément du Royaume-Uni, mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas dans notre meilleur intérêt d'y rester. Je pense que pour l'Écosse, l'Union européenne pourrait être plus bénéfique que le Royaume-Uni.
Un sujet de discussion sans fin qui aura au moins eu une vertu, réveiller l'intérêt des jeunes pour la politique.
Les jeunes sont beaucoup plus impliqués en politique et se préoccupent davantage de ce qu'il se passe et quel effet tout cela aura sur leur futur. Avant le référendum sur l'indépendance de 2014, les jeunes ne se considéraient pas comme étant membres de quelque chose de plus grand. Et je pense que maintenant, ils en ont une idée plus claire.
Selon un sondage paru mi-octobre dans l'édition écossaise du Sunday Times, 50% des Écossais soutiendraient l'indépendance, un chiffre jamais atteint jusqu'ici.
Et cette question, en voulant sortir de l'Union européenne, les Britanniques ne vont-ils réussir qu'à faire exploser leur royaume ?
J'ai l'impression effectivement qu'il est déjà désintégré ce royaume, parce que effectivement on a relancé le processus de l'indépendance. Nicola Sturgeon, qu'on vient de voir, c'est quelqu'un qui joue à qui tout double. Elle veut faire le grand chelem en Écosse et peser à Westminster. Si elle y parvient, ce sera effectivement
le. Ça veut dire quoi faire le grand chelem ?
Le grand chelem, c'est remporter tous les sièges, comme elle l'avait fait avant. Là, elle avait un peu faibli. Elle avait laissé quelques sièges aux conservateurs, quelques sièges aux travaillistes, et là, elle veut sans doute remporter tous les sièges en Écosse.
Ça changerait quoi ?
Ça changerait déjà qu'il y aurait ça contribuerait à un Parlement, d'une part, ingouvernable, et d'autre part, ça la légitimerait pour organiser un nouveau référendum. Et dans l'hypothèse où Jeremy Corbyn arriverait au 10 Downing Street, elle est prête à tout pour cela. Il s'est engagé, éventuellement, sans préciser de date, à ce qu'il y ait un second référendum sur l'indépendance de l'Écosse.
C'est un donnant-donnant avec Jeremy Corbyn.
Absolument, c'est un donnant-donnant. Elle veut tout sauf Boris Johnson.
C'est ça, tout sauf Boris Johnson. Pardon.
Sauf que Jeremy Corbyn reste assez vague sur la date éventuelle d'un référendum. Donc, pour la première ministre écossaise, c'est vrai que c'est quitte double. C'est le moment ou jamais maintenant d'y aller, parce qu'elle sait que la Grande-Bretagne risque de partir assez rapidement de l'Union européenne. Elle veut que l'Écosse reste dans l'Union européenne. Donc, elle a ses supporters qui veulent y rester également. Donc, elle sait que là, elle est en position de force. Si elle attend après la Grande-Bretagne s'en va, ce serait plus compliqué pour elle. Alors, ce qui pourrait lui arriver, c'est deux choses. D'abord, un, elle réussit son coup et elle oblige Londres, qui doit donner son accord avant que l'Écosse puisse revoter pour un deuxième référendum. La dernière fois, c'était en 2014, avant le référendum de 2016. Si elle est en position de force, elle rafle tous les sièges. Là, Londres sera plus ou moins obligé de lui donner raison et de lui accorder le référendum. Mais ce n'est pas sûr qu'ils vont accorder le référendum rapidement. Et là, si elle est élue après les élections sur un ticket de oui, on va faire un référendum et le référendum ne vient pas, là, elle peut risquer de perdre du soutien ensuite.
Mais est-ce que c'est un sujet ? C'est quand même pas rien, l'Écosse qui dit on veut revoter de nouveau pour l'indépendance avec l'incertitude, forcément.
C'est 50-50 entre ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas. Alors, elle pense que les conservateurs n'existeraient presque plus en Écosse après à cause de Boris Johnson et à cause du référendum. Donc, elle mise sur la récupération de ces sièges-là, elle mise Tories ou Jeremy Corbyn, le parti Tories.
Mais est-ce que c'est un sujet dans la campagne britannique, là, de dire attention, dans les effets, les dommages collatéraux qu'il peut y avoir sur ce vote, il y a aussi la question du Royaume-Uni et de ce qui va se passer en Écosse.
Mais une des choses les plus incroyables, c'est que quand vous faites des sondages auprès de cette toute petite partie de la population, mais quand même, qui sont les adhérents du Parti conservateur, les adhérents du Parti conservateur sont plus âgés que la moyenne, ils sont souvent blancs de peau, ils sont retraités, ils sont rentiers, et on les interroge. Et ils sont prêts, en majorité, à laisser partir l'Écosse si c'est le prix à payer pour obtenir le Brexit, ce qui est étonnant de la part des adhérents actifs du Parti conservateur. Ils sont même prêts, ce qui, alors vraiment dans une logique britannique est assez fou, à laisser filer l'Irlande du Nord. Et d'une certaine manière, c'est la logique de l'accord de Boris Johnson, parce que l'accord négocié par Boris Johnson avec Bruxelles prévoit une sorte de frontière qui ne dit pas son nom entre l'Irlande du Nord d'une part, le territoire britannique de l'Irlande d'une part, et le reste, la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'ensemble, Angleterre, Écosse, Pays de Galles, d'autre part. Donc on voit à quel point le Brexit, à la manière d'une machine à laver, comme ça, soumet le Royaume-Uni à des forces centrifuges quand même assez importantes.
La question de l'indépendance de l'Écosse, elle était antérieure à celle du Brexit. Hein, parce que quand il y a eu le référendum en 2014, effectivement, on ne parlait pas à ce moment-là de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et il y avait une grande campagne de Nicola Sturgeon et du parti indépendantiste écossais pour dire « sortons, nous l'Écosse, sortons du Royaume-Uni ». Elle était donnée gagnante dans les sondages avant le référendum de 2014. Et finalement, les Écossais ont voté à 55%, pratiquement 55%, pour rester dans le Royaume-Uni. Et je pense qu'il faut rappeler quand même, à cette époque, il y avait tout un débat pour l'Écosse, qui était si l'Écosse sort du Royaume-Uni, elle n'a pas de monnaie, donc il faut qu'elle crée une monnaie. Et à ce moment-là, les Écossais, les indépendantistes disaient « Oui, mais on demandera le soutien de la Banque d'Angleterre », qui disait « de toute façon, ça fait logique, si vous avez quitté le Royaume-Uni, il n'y a aucune raison pour qu'on vous soutienne ». Et puis ensuite, l'Écosse arrivait avec un gros déficit budgétaire, parce qu'actuellement, l'Écosse est largement financée par l'Angleterre. Donc, du côté de l'Union européenne, on disait à l'Écosse « Bon, alors, si vous quittez le Royaume-Uni, donc il faudra que vous respectiez tous les critères d'adhésion, d'entrée dans l'Union européenne, parce qu'on ne va pas considérer que vous êtes déjà dans l'Union européenne. Il faudra donc arriver avec des finances publiques saines, il faudra quelle monnaie aurez-vous ? »
Mais ce sera encore le cas.
Et ce serait donc la même problématique aujourd'hui. Rien n'a changé sur ce plan-là depuis 5 ans. Et puis l'autre point, et qui est toujours là aujourd'hui, c'est que du côté de l'Union européenne, et en particulier de certains pays comme l'Espagne, on disait mais hors de question qu'un pays comme l'Écosse puisse entrer dans l'Union européenne parce que nous avons la Catalogne. Et si l'Écosse entre dans l'Union européenne, les Catalans vont dire mais nous aussi nous souhaitons notre indépendance. Et donc la problématique serait tout à fait la même aujourd'hui et ça serait très difficile à l'Écosse de pouvoir entrer dans l'Union européenne.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Ne s'agit-il pas d'un deuxième référendum déguisé en élection ? Se demande Sébastien dans le Calvados.
Oui, je crois que Sébastien a tout à fait raison. C'est des élections législatives, et je le dis depuis le début, qui font office de quasi-référendum. Car quand vous regardez Jo Swinson, la chef du Parti libéral, elle dit « je veux rester dans l'Union européenne ». Boris Johnson, « let's done Brexit down », il faut que le Brexit se fasse. Et Jeremy Corbyn parle du Brexit. Donc c'est vraiment, véritablement un second référendum. Est-ce que c'est un référendum pour rester, pour partir avec un accord ? Mais en tout cas, en tout état de cause, ça fait office, selon moi, de second référendum.
Sauf que vous nous expliquiez tout à l'heure que parce que les positions sont parfois compliqués au sein même des partis, on pourrait se retrouver avec un Parlement ingouvernable. Donc, à l'issue de ce référendum déguisé en élection, on n'aurait pas forcément une réponse par oui ou par non.
Tout simplement, parce que la société britannique et les électeurs sont complètement divisés.
Je vais vous donner une idée. En 2016, on disait c'est le camp du Remain qui va gagner, ils ont perdu. En 2017, on a dit Theresa May va avoir une nouvelle majorité, elle n'a pas eu. Donc, il ne faut rien miser sur ces élections, parce que le pays est tellement divisé qu'il y a de fortes chances que ce soit encore un parlement ingouvernable.
Boris Johnson peut-il perdre ses élections ?
Ah oui, bien sûr. J'ai tendance à penser que c'est l'hypothèse la plus probable.
Carrément.
En ce sens, si par perdre, on veut dire ne pas les gagner. C'est ça le truc. C'est-à-dire, si les gagner, c'est d'avoir la majorité absolue au Parlement, Honnêtement, ce sera, à mon sens, assez compliqué. Ne serait-ce que pour des raisons météorologiques, des personnes âgées qui vont hésiter à sortir en pleine nuit en Écosse et ailleurs. L'électorat âgé, c'est précisément l'électorat pro-Brexit. Pour mille et une raisons, je ne mettrai pas ma main à couper que le D'accord. Parti conservateur peut l'emporter.
Même s'il est pour l'instant favori dans cette élection.
Bien sûr, mais Theresa May en 2017 est partie avec 20 points d'avance.
Dans quel but Donald Trump intervient-il dans cette campagne ?
Eh bien, c'est ce que nous disions tout à l'heure. En tout cas, sur le plan économique, c'est clair. Hein, il souhaite avoir un Royaume-Uni qui soit complètement détaché de l'Union européenne et puis pouvoir négocier des accords commerciaux qui seraient favorables aux États-Unis avec le Royaume-Uni. Et puis, si l'Europe est affaiblie, parce que l'Europe sera affaiblie avec le départ du Royaume-Uni, qui est un des grands pays de l'Union européenne, qui a 66 millions d'habitants, eh bien, ça affaiblira en même temps l'Union européenne. Donc, Donald Trump a tout à gagner dans cette affaire.
Vu l'ambiance hystérique, le fameux flegme britannique n'est-il pas maintenant un cliché d'une autre époque ? Je me tourne vers les Britanniques.
J'ai bien peur que c'est en train de le devenir. Quand on voit la violence de cette campagne, quand on voit les insultes qui circulent, quand on voit les politiques qui ont peur de faire leur travail, qui sont accompagnés par les gardes-corps en campagne électorale et dans leur circonscription, c'est un tournant que je pense que personne en Grande-Bretagne avait prévu lors du référendum de 2016. Donc oui, le flegme britannique existe certes toujours, mais a pris un sérieux coup avec le référendum et l'histoire du Brexit.
Marc Epstein.
Oui, il y a un arrière-plan très sérieux et assez grave dans ces histoires. C'est-à-dire que la vie politique britannique repose depuis des siècles, en tout cas en partie, sur une sorte de gentleman's agreement. C'est pour ça qu'une bonne partie de la Constitution n'est pas écrite. Bon. Là, vous avez un Premier ministre au pouvoir qui menace le Parlement, c'est-à-dire le cœur de la démocratie britannique, de transformer ce Parlement en Parlement zombie. Vous avez des candidats qui s'envoient des insultes. Et vous avez en effet une violence sous-jacente. Le Brexit, d'une certaine manière, agit à la manière d'un virus au sein de la démocratie britannique elle-même. Et on commence à parler de nécessaire réforme institutionnelle, précisément afin de codifier peut-être davantage la démocratie britannique dans son fonctionnement.
Oui, donc la fin du flegme britannique, ça peut avoir des conséquences assez lourdes, hein, c'est ça que vous nous expliquez, Marc Epstein.
Ça peut, oui.
Ce doit être angoissant pour les Anglais de se demander ce que l'avenir leur réserve. Oui.
Oui, parce que personne ne sait. Et vous savez, depuis des mois et juste même avant le début de cette campagne, j'écoute tous les commentateurs politiques sur les chaînes britanniques à longueur de journée et tout le monde dit la même chose. Ils disent, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Oui. C'est l'inconnu. On ne sait pas si le 31 janvier, on va pouvoir sortir ou pas. Vous imaginez le 12 décembre la personne qui gagne cette élection, bon, on va partir pour les vacances de Noël le 31 décembre, elle va revenir début janvier. Il a tout à mettre sur place.
En même pas
un mois pour partir le 31 janvier. C'est une tâche énorme. Donc, c'est pas certain qu'on ne va pas encore prolonger la date. Et bon, c'est très anxiogène. Et il y a beaucoup de gens sous médication qui sont en dépression nerveuse à cause du Brexit parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas si on va gagner de l'argent, on va voir.
Mais on sourit, voilà. Mais c'est vrai. Il y a plus de consultations chez
c'est
le psy.
C'est fortement monté depuis.
Nigel Farage peut-il créer la surprise dans ce scrutin ?
Moi, je ne crois pas, parce que vraiment, ce scrutin ne lui est pas favorable. Autant pour les élections européennes, il y a un scrutin qui est proportionnel. Donc là, pour Farage, c'était facile de gagner des voix. Effectivement, il est arrivé en tête. Mais là, avec ce type de scrutin, où c'est vraiment le premier arrivé dans la circonscription qui emporte le poste, je pense que tous ceux qui sont favorables au Brexit vont voter pour le candidat conservateur. Et c'est une des raisons pour lesquelles Farage, d'ailleurs, lui-même, a dit qu'il ne se présentait pas, mais qu'il allait soutenir les 600 candidats à travers le Royaume-Uni. Mais il y a, je pense, très peu de chances pour que le parti du Brexit emporte beaucoup de sièges.
Et il fait aussi des interviews avec Donald Trump campagne. Allez, le gouvernement a-t-il relégué au second plan toutes les décisions ne concernant pas le problème du Brexit ?
Ah non, bien au contraire, parce qu'il a quand même mis en avant la création de 20 000 ou 30 000 policiers supplémentaires. Il parle de la création de 40 hôpitaux. On voit bien qu'on essaye de parler d'autre chose que du Brexit pour bien montrer que c'est aussi le parti du peuple et le parti du service public, alors qu'une note interne du Parti conservateur a dit qu'éventuellement, eh bien, il ne fallait pas renoncer au fait que ça pourrait faire l'objet d'une négociation avec les Américains.
Quel est vraiment l'intérêt pour l'Europe d'accepter tous ces reports ?
Parce que l'Europe, manifestement, n'a pas du tout intérêt à ce qu'il y ait un Brexit dur. Les entreprises françaises, tout le monde doit continuer. Regardez tous les Français qui ont des boulangeries, des magasins de vin, etc. Ils ne veulent plus de taxes, sans quoi c'est la ruine des entreprises françaises.
Et l'Europe qui réclame au minimum au moins un commissaire de la part des Britanniques pour participer à la nouvelle commission.
C'est exclu que la Grande-Bretagne ne sorte pas. Donc,
oui, merci de terminer par ça. Allez, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. Dans un instant, vous retrouvez C'est à vous. Et demain, vous retrouvez Axel de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.